Décryptage, Marie Cazadebet.
En seulement 11 jours, ce sont près de 125 000 personnes qui ont fui le sud-ouest de la Birmanie et traversé la frontière avec le Bangladesh, selon l'ONU. 37 000 rien que dans la journée de lundi. La plupart sont des musulmans Rohingyas, une minorité persécutée depuis des décennies en Birmanie, mais pas que. Toutes ces personnes fuient les violences qui ont enflammé l'état d'Arakan avec le début d'une opération militaire d'ampleur contre une rébellion armée naissante. Ali Zoher, un Rohingya vivant depuis des années dans un camp de réfugiés au Bangladesh, les voit chaque jour débarquer.
Je vois beaucoup de gens en pleurs car un grand nombre d'entre eux ont perdu des membres de leur famille, leur père, leur mère ou leur frère. Tous sont très déprimés. Il n'y a rien d'autre que la dépression ici. Tous les regards sont remplis de tristesse et de désespoir. J'ai parlé à de nombreux réfugiés.
Que fuient exactement tous ces réfugiés? Quel est ce mouvement rebelle qui dit défendre la minorité Rohingya? Et pourquoi cette minorité subit de telles violences en Birmanie? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. À mes côtés en studio, Alexandra Demersan, anthropologue, spécialiste de la Birmanie, enseignant-chercheur à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui explique alors un tel flux de réfugiés vers le Bangladesh? Un flux incessant, on le disait, depuis une dizaine de jours.
Oui. Il y a une dizaine de jours, ARSA, qui est un groupe Rohingya a mené un certain nombre d'attaques contre des postes de police et des postes qui représentent d'une manière ou d'une autre l'autorité birmane. Et suite à ces attaques menées par ce groupe, l'armée birmane a cherché les assaillants, essayé de les capturer. Et comme à chaque fois, la manière qu'elle emploie pour retrouver les assaillants extrêmement violente et elle ne fait pas dans la dentelle et elle s'en prend à tous les villages à majorité musulmane.
Là on parle d'un bilan officiel de 400 morts dont 370 terroristes. Ça c'est un bilan donc officiel donné par le régime et c'est le terme aussi employé par le régime. Qu'est-ce que l'on sait de l'ARSA? Donc c'est l'Arakan Rohingya Salvation Army.
Oui. Alors, on ne sait pas énormément de choses. C'est ce même groupe qui a revendiqué une attaque de poste frontière en octobre l'année dernière, en octobre 2016, sous un autre nom. Ce groupe, en fait, est un groupe nationaliste qui revendique, qui a pour objectif de se défendre des assauts des Birmans, de l'autorité birmane, qui depuis des décennies en fait mènent les musulmans d'Arakan dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Juste un point par rapport à ce groupe qui n'est pas très très connu, c'est un groupe qui revendiquait dans ses communiqués qui ont suivi les attaques du 25 août dernier, c'est un groupe qui revendiquait le fait d'être un groupe arakanais et qui vraiment dont l'ennemi était non pas les populations bouddhistes locales, mais l'autorité birmane et les Birmans. Voilà, il est bien.
Est-ce qu'on sait ce groupe armé bénéficie de soutiens étrangers? Et par exemple, son armement aussi, en quoi il consiste? Et là aussi, est-ce qu'on peut imaginer qu'il a eu une aide?
Alors, depuis plusieurs décennies, les musulmans d'Arakan vivent dans des conditions extrêmement difficiles qui font que les chercheurs, les spécialistes, en fait, s'accordent à dire que ce serait logique que les musulmans d'Arakan prennent les armes pour se défendre et bénéficient éventuellement de soutien ou je dirais que des groupes étrangers profitent en quelque sorte de leur situation pour essayer de les intégrer dans des réseaux internationaux. Là, visiblement, je ne suis pas une spécialiste des armes, de l'armement, mais visiblement leurs armes étaient quand même assez sommaires. Eux-mêmes ne revendiquent pas d'attaches particulières avec des réseaux étrangers. Bon, beaucoup de musulmans d'Arakan depuis longtemps ont fui la région, au Bangladesh, mais dans d'autres pays, au Pakistan ou dans certains pays du Golfe. Et il semblerait qu'ils aient obtenu en tout cas un soutien de migrants musulmans qui ont fui donc leur pays depuis longtemps et qui sont installés maintenant dans d'autres pays. De là, les qualifier de terroristes, c'est la position à la fois du gouvernement d'Aung San Suu Kyi et de l'armée birmane, et avec une interdiction auprès des médias locaux de les appeler autrement que groupes terroristes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, les médias en Birmanie n'ont pas le droit de les appeler des groupes armés rebelles.
De défense, par exemple.
Voilà, comme il en existe beaucoup d'autres. Enfin, en Birmanie, et dont on parle très peu finalement à l'international.
On reviendra évidemment sur la réaction des autorités et puis sur les. Vous avez parlé d'autres vagues d'exode de ces musulmans, donc Rohingyas. Est-ce qu'il y a un risque de récupération de ce mouvement rebelle ou de ce mouvement armé par des mouvements plus radicaux? On pense par exemple à l'État islamique.
Oui, c'est possible. Encore une fois, les musulmans d'Arakan vivent dans des conditions de vie qui les mènent vraiment dans une impasse. C'est des conditions de vie difficiles. Bon, ce ne sont pas les seuls groupes dans ces situations-là en Birmanie. La Birmanie compte une très grande diversité de populations et un grand nombre sont en rébellion armée et même depuis des décennies contre l'armée birmane. Qu'ils soient récupérés par des groupes, c'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'indique qu'ils aient bénéficié, peut-être qu'ils ont bénéficié de soutien, mais rien n'indique que ce soit radicalisé et qu'ils défendent une cause d'un islam, je dirais, universaliste. Le propos de Arsa, là, de ce groupe Rohingya, est quand même, je dirais, leur intérêt est très national. C'est une population locale qui se bat contre une autorité centrale et contre les exactions d'un gouvernement central qui les persécute depuis des décennies.
Un mouvement armé donc qui fait face à la violence de l'armée birmane, et selon l'ONU, ça explique aussi pourquoi près de 125 000 personnes ont pris la direction du Bangladesh. Écoutez sur place le témoignage de ce président d'association humanitaire bangladaise.
Nous avons pu donner de la nourriture aux enfants il y a une semaine. La police aux frontières nous laisse le faire officieusement car elle voit les personnes mourir en traversant la rivière ou des gens qui arrivent exténués. Le gouvernement ne veut pas être trop généreux pour éviter que d'autres réfugiés ne viennent. Nous avons déjà plus de 50 000 Rohingyas qui vivent au Bangladesh depuis 1992. Donc mon gouvernement a peur de ne jamais pouvoir les renvoyer.
Bonsoir Serge Bresse.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous au téléphone, directeur du département expertise, directeur du plaidoyer d'action contre la faim. Dans quelles conditions ces nouveaux réfugiés sont accueillis au Bangladesh? Je dis nouveau parce qu'on l'a entendu, ce n'est pas la première vague d'exode de Rohingyas de Birmanie vers ce pays.
Oui, il y a déjà plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont au Bangladesh. Action contre la faim, on donne une assistance à plus de 167 000 personnes sur place. Aujourd'hui, je crois que ça a été dit un petit peu avant, il y a effectivement des réfugiés qui sont bloqués à la frontière depuis plusieurs jours, qui ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. On vient d'entendre le témoignage. Et nous, on a vu arriver, alors on parle, les chiffres sont 120 000, comme vous avez dit, peut-être plus aujourd'hui. Ce qu'on fait à Action contre la faim, déjà, c'est d'essayer d'apporter une aide immédiate avec des distributions de repas chauds, un accueil dans les camps de réfugiés existants où il reste de la place pour toutes ces personnes réfugiées. Et puis, on a des activités de dépistage, de malnutrition, de prise en charge des cas chez les enfants, parce que malheureusement, les personnes arrivent dans des situations nutritionnelles difficiles. Après, on apporte aussi un soutien sur tout ce qui est eau et assainissement dans les camps.
Quelle est l'attitude de Dhaka face à ce flux? On entendait cet humanitaire dire on les accueille avec le minimum pour ne pas finalement les pousser à rejoindre le territoire bangladais.
Alors ça, c'est une situation, je pense, qui est décrite plutôt à la frontière. Nous, on est situé dans une zone où il y a des camps, des camps de réfugiés qui sont là et qui permettent d'accueillir ces personnes. Et on y travaille avec les autorités. Donc il y a dans ces zones-là moyen d'accueillir les personnes quand elles peuvent arriver jusque-là. Mais malheureusement, beaucoup sont probablement bloqués avant.
Sont coincés. Ça veut dire que Bangladesh n'ouvre pas forcément facilement ses frontières à ces réfugiés?
C'est toujours compliqué. Je crois qu'on n'a pas trop de. Enfin, moi, je donnerai pas de leçons, si vous voulez, sur l'accueil des réfugiés aujourd'hui en France, depuis la France. Hein. Mmh. On parle vraiment de aujourd'hui possiblement 300, 400 000 personnes qui sont dans cette zone. Oui, probablement, ça n'est pas facilité totalement, mais il y a des structures aujourd'hui et nous, on y travaille.
Et aujourd'hui, le Bangladesh accuse la Birmanie d'avoir même miné sa zone frontalière. Alexandra de Mersan, ça vous étonne? C'est une zone minée à la frontière, sûrement pour éviter aussi un afflux, on imagine.
Alors, les mines, du point de vue du gouvernement, enfin de l'armée birmane, viennent des musulmans, des attaquants musulmans et pas de l'armée birmane. Je veux dire que c'est une zone, et en particulier cet extrême nord de l'Arakan, c'est une région donc frontalière, et donc l'armée a le contrôle de cette région, et on peut pas y aller à moins d'être un journaliste autorisé lorsque c'est possible, et bon, en ce moment c'est pas possible, et enfin voilà, c'est quand même une zone où on sait très concrètement où c'est très difficile d'aller quand on est étranger.
D'ailleurs, Serge Bresse, les violences dans l'état d'Arakan n'ont pas fait fuir que les populations, les ONG aussi ont dû partir. Quelle est la situation humanitaire dans cette région? Votre ONG n'y est plus.
Alors voilà, Action contre la faim, nous on est présent à Myanmar depuis 1994 et on intervient dans l'état du Rakhine. Nos activités, elles ont été interrompues depuis le 14 août du fait des violences intercommunautaires et la situation s'est aggravée le 25 août avec des combats entre les groupes armés et les forces de l'ordre qui sont rapprochés en fait du lieu où se trouvaient nos équipes d'intervention. On a des équipes nationales et internationales sur place. Et dans ce contexte, on a dû, le 25 août, évacuer l'ensemble des équipes et arrêter tous nos programmes. Donc il faut savoir que c'est déjà une zone très très pauvre, où du fait du conflit, il y a des besoins d'aide très très importantes. Nous, on prêtait plus de 9000 enfants atteints de la forme la plus grave de malnutrition, la malnutrition aiguë sévère, et on prenait en charge aussi 1500 femmes enceintes ou allaitantes.
Là, vous parlez d'une situation qui précédait même le conflit armé entre l'ARSA et l'armée?
Oui, parce que ce conflit, il y a déjà eu plusieurs années de conflit sur place. Il y a déjà des camps de réfugiés, il y a déjà des situations très très difficiles dans le nord du Rakhine. C'est pour ça que nous on était présents sur place. On a, avant même les derniers événements de fin août, il y avait 120 000 personnes qui sont dans des camps de réfugiés dans le nord Rakhine. Mmh. Donc aujourd'hui, évidemment, si on rajoute, si vous voulez, la situation actuelle, en sachant que toutes les ONG et les Nations Unies ne peuvent pas opérer du fait de la situation, on est très inquiet pour les populations sur place.
Moi, je précise juste, Serge Bresse, quand vous parlez de l'état de Rakhine, en fait, il s'agit de la même chose que l'état d'Arakan pour que tout le monde s'y retrouve. La Birmanie, ou en tout cas le pape François, se rendra en novembre. Écoutez l'appel qu'il a lancé le 26 août à l'attention de la minorité musulmane des Rohingyas.
Je voudrais leur exprimer toute ma proximité. Et nous tous demandons au Seigneur de les sauver et d'inspirer des hommes et des femmes de bonne volonté pour qu'on les aide à ce que tous leurs droits soient respectés.
Que tous les droits des Rohingyas soient respectés. Alexandra de Mersan, jusqu'à présent, cette minorité n'en a quasiment aucun en Birmanie de droits.
Disons que les droits ont été sacrément diminués. En fait, la question des musulmans d'Arakan, c'est on a évoqué plusieurs fois des conflits antérieurs et ce que l'on constate, c'est que ces conflits ont eu lieu à des moments où il y avait un changement de constitution et des élections qui suivaient la constitution. Donc la question fondamentale qui aboutit à ces conflits, enfin une des questions fondamentales, c'est de savoir quelles sont les conditions d'accès à la citoyenneté en Birmanie, qui est national, qui est étranger. Et une difficulté principale aussi, la difficulté majeure que connaît la Birmanie depuis son indépendance en 1948, c'est le problème de la construction nationale. C'est-à-dire que les musulmans d'Arakan ne sont pas la seule minorité, ne sont pas le seul groupe de la Birmanie. Il y en a 135 qui sont officiellement reconnus. Les musulmans d'Arakan ne sont pas reconnus parmi ces minorités, ces groupes ethniques. C'est-à-dire que les musulmans d'Arakan sont considérés, ne sont pas considérés comme une minorité ethnique, sont considérés comme un groupe religieux associé à des étrangers.
Alors, qu'est-ce qu'ils représentent, ces musulmans d'Arakan, par rapport à l'ensemble de la population birmane? Est-ce qu'on a une idée?
On sait qu'ils sont... Il y a eu un recensement dans lequel ils n'ont pas pu être officiellement recensés. C'est un peu étonnant, mais il y a eu un recensement en 2014 qui fait qu'on évalue à 1 100 000 musulmans en Arakan.
Pourquoi une répression? Alors on a l'impression, en vous entendant, qu'il s'agit d'une minorité presque fantôme. Elle n'apparaît pas. Alors elle n'a pas le statut donc de birman, c'est ça? Elle n'a pas la nationalité birmane. Quel est son statut et comment expliquer cette situation aujourd'hui?
Alors c'est pas exactement qu'elle n'a pas la nationalité birmane. C'est que en 1982 il y a eu une nouvelle loi sur la citoyenneté, et depuis cette loi, en fait, on appartient à la nation birmane en tant que membre d'un des 135 groupes ethniques reconnus officiellement. Excusez-moi, votre question.
La question, c'était savoir pourquoi elle était réprimée, pourquoi on parlait d'une répression, pourquoi voilà autant d'attention finalement sur cette minorité-là.
Oui, en fait, les musulmans d'Arakan en particulier sont considérés comme des étrangers pour la plupart et des birmans illégaux, des personnes qui seraient arrivées de façon illégale. Ils sont considérés comme des étrangers parce que quand la Birmanie a été occupée pendant la colonisation britannique, en fait, les Britanniques ont fait appel à une main-d'œuvre originaire de l'Inde pour développer la culture du riz et le commerce du riz. Et à cette occasion, donc pendant la colonisation, des centaines de milliers d'Indiens sont venus en Birmanie pour venir y travailler. Ce qui se passe, c'est qu'en Arakan, les Indiens qui sont venus, en fait, comme ils venaient du Bengale voisin, ils se sont installés dans une plus grande proportion que les autres Indiens, mais ils ont été, du coup, associés à l'impérialisme britannique, et comme la majorité des musulmans d'aujourd'hui originaires de l'Inde sont justement des descendants de ces migrants, et que les musulmans ne sont pas des personnes qui se sont converties. Il y a cette idée de l'islam qui n'est pas un groupe ethnique, c'est-à-dire qui n'est pas un groupe autochtone. Enfin, les musulmans ne sont pas des groupes autochtones, mais
ils sont toujours rattachés à leur migration, à leurs origines.
Voilà. Tout en précisant toutefois qu'il y avait quand même des vieilles populations musulmanes en Arakan avant la colonisation, mais qu'ils ont été en quelque sorte absorbés ou en tout cas mélangés à ces nouveaux migrants, en tout cas identifiés à ces migrants liés à la colonisation.
Pourquoi quel est le but du régime birman quand vous parlez d'une violence peut-être disproportionnée là dans le cas du conflit donc tout récent? Quel est le but du régime? Qu'est-ce qu'il veut faire finalement de cette minorité?
Alors, il y a la situation d'urgence actuelle où, je vous ai dit, ils cherchent les assaillants et à défendre, voilà, à retrouver les assaillants, et ils ne prennent absolument aucune... Enfin, voilà, c'est une armée contre une guérilla armée. Le régime militaire birman, pendant 50 ans, a montré sa férocité. Ce n'est pas... En fait, l'armée birmane se comporte... Donc, il y a la situation actuelle et la situation antérieure, les conflits antérieurs, c'était justement de faire la chasse à... les autorités birmanes sont intervenues en Arakan à chaque fois au prétexte de vérifier l'identité des musulmans de ces populations en Arakan, parce que beaucoup de musulmans se seraient installés aussi en Arakan au moment de l'indépendance du Bangladesh en 1971, et régulièrement se seraient installés dans ce pays moins peuplé que le Bangladesh, plus riche. C'est très difficile de savoir si effectivement, enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues en Arakan depuis 71.
Là, par exemple, lorsqu'on voit que les villages sont brûlés au passage de l'armée, et c'était déjà sûrement le cas avant cette rébellion armée, on a le sentiment que tout est fait pour qu'ils ne puissent pas revenir, que ces réfugiés ne puissent pas faire machine arrière et revenir en Arakan.
Oui, en tout cas, on a surtout le sentiment, oui, alors c'est possible, mais on a surtout le sentiment là que la manière de réprimer les attaquants est extrêmement violente, et surtout les militaires visiblement ne s'en prennent pas qu'aux hommes.
Merci beaucoup Alexandra Demersan d'avoir été avec nous en studio, et merci à Serge Bresse d'Action contre la faim qui était au téléphone avec nous également. Émission évidemment à retrouver sur notre site rfi.fr et sur la page Facebook de Décryptage.